Petite vidéo pour tous les gens qui écoutent le podcast Hypercroissance autant sur YouTube que sur Spotify ou Apple Podcasts. Je voulais prendre un peu de temps aujourd'hui pour vous remercier d'être avec nous, d'être aussi nombreux semaine après semaine. On sort les podcasts le lundi, on sort les podcasts le jeudi. On a toujours autant d'auditeurs et ce chiffre continue à croître vraiment d'un mois à l'autre. Donc, on est excessivement content de vous avoir parmi nous. Et également, vous faire une petite annonce, c'est qu'on va changer un petit peu la structure des podcasts. Vous allez le voir avec l'entretien d'aujourd'hui, également les prochains entretiens, spécifiquement ceux qui vont sortir le lundi. On va avoir des entretiens qui vont être de plus en plus longs. On veut allonger les séquences de diffusion, plutôt les séquences de discussion en 2024 et dans les années à venir. Maintenant, il y a une seule chose que je vous demanderais de faire. Si vous pouviez vous abonner au podcast. Si vous écoutez le podcast sur YouTube au moment où on se parle, cliquez simplement sur la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne Podcast Hypercroissance. Ça peut énormément nous aider. Si vous l'écoutez sur Spotify, même chose, abonnez-vous. Même chose sur Apple Podcasts. Le petit geste que vous pouvez faire, ça peut faire toute la différence pour nous. Vous le voyez, c'est un podcast qui est 100% autofinancé. On n'a pas de sponsor ou de publicité qui s'intègre sur le podcast. Donc, tout ça est fait de nos poches et on le fait avec énormément de plaisir et énormément d'amour. Et la seule chose qu'on vous demande en retour, si vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube, Apple Podcasts ou sur Spotify, ce serait excessivement apprécié. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon épisode.
Là, je suis comme, OK, elle va juste me dire, j'ai reçu ta candidature. Elle dit, écoute, elle dit, on a trippé sur tes 10 dernières années. On a appelé tes clients. Tout le monde nous a donné que des commentaires exceptionnels. You're in. On t'attend dans 2 semaines et demie. Là, j'ai fait, oh boy, j'ai raccroché. Non, je suis allée vivre à Harvard, dans des dortoirs puis tout ça. C'est 3 semaines aux 8 mois pendant 3 ans. Fait que là, je dis ça à mon conjoint le soir même. Tu sais, on a quand même 2 enfants, tu sais, qu'on élève ensemble. Puis je suis comme, I'm going to Harvard. Il est là, pourquoi tu fais ça? Tu sais, Marie, ça va bien tes affaires, là. Puis il dit, tu vas partir 3 semaines, 1 mois. Écoute, ça va être la catastrophe. Tu sais, j'étais beaucoup une femme orchestre. C'est ça, je voyais pas.
Pierre Saint-Hilaire, vous êtes la présidente et fondatrice de Agenda, un groupe d'entreprises ou plutôt une famille d'entreprises regroupant respectivement Agenda, AFI, Apprentix et AFIU. Lancée au début des années 2000, votre organisation a su évoluer à travers les années pour maintenant compter plus d'une centaine, peut-être même 200 employés dans ces ronds au moment où on se parle. Vous êtes dans le domaine technologique, également dans le domaine du service. Bref, vous touchez à énormément de différents secteurs. Marie-Pierre Saint-Hilaire, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Salut Antoine, ça va?
Ça va très bien. Je suis très heureux qu'on ait finalement la chance aujourd'hui de parler ensemble. Puis, dis-moi Marie-Pierre, juste pour bien situer nos auditeurs qui peut-être ne connaîtraient pas ta famille d'entreprise, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que Agenda et quels sont les types de clients que vous aidez?
Oui, c'est vrai Antoine que ça peut paraître un peu sophistiqué là comme style parce qu'effectivement on a décidé au fil des années de respecter les valeurs puis la façon dont on évoluait comme organisation. Donc ça c'est finalement dénaturé par une famille qui s'appelle la famille Agenda qui compose 3 entreprises. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on est là pour transformer au niveau affaires et technologique les organisations du Canada. Donc, on est évidemment ce qu'on appelle du B2B market, là, ce qui veut dire qu'on se lève tous les matins pour les organisations, pour les entreprises, pour les leaders, mais aussi pour exécuter des plans stratégiques pour pouvoir transformer un peu le monde. Fait que notre expression qu'on aime beaucoup à dire, c'est prêt à transformer le monde avec un point d'interrogation parce que c'est pas juste nous qui transformons le monde, c'est aussi nos clients puis notre écosystème. Fait que c'est ce qu'on fait. Et ça se traduit par 3 business qui sont complémentaires, qui sont transversales aussi. Alors, c'est
bien
un groupe effectivement de 260 personnes maintenant.
260.
Ouais, exact. Et Agenda est connu pour son service conseil là en transformation d'affaires et technologie. Fait qu'on a des experts d'à peu près tous les domaines qui peuvent nous aider à faire une évolution, disons, agressive de ce qu'on a besoin à mettre, autant en numérique qu'en changement de culture, en transformation de culture, de leadership, des grands projets de processus, d'optimiser, de moderniser. Bref, on est là quand il y a un projet, puis qu'il y a des leaders qui ça leur tente d'évoluer à vitesse grand V, on est là. Ça, c'est Agenda. On a affiché par Agenda qui est un peu le cœur de tout ça depuis 24 ans. On conçoit des solutions d'apprentissage. En fait, on est la plus grande organisation au Canada qui développons des solutions d'apprentissage. On en développe pour des milliers d'heures par année, que ça se traduise par du rapid learning, du e-learning, que ça se traduise par même du marketing interne maintenant, de la communication spécifique, de la conception pédagogique pour des classes plus traditionnelles. Bref, on touche à peu près à tout, comment balayer le plancher jusqu'à des solutions technologiques, l'adoption très, très complexe. Et à l'intérieur de FIPAR Agenda, ben, on a notre école à FIU, comme tu le disais, qui est l'école des affaires et des technologies, mais pour les organisations. Fait que c'est la seule école, je dirais, au Canada qui est là tous les matins, qui se lève pour les business et non pas seulement pour les participants, les apprenants qui vont être dans les salles de formation. Ce qui fait qu'on touche plus de 75 000 personnes, que ce soit des leaders, des professionnels, des agents de bureau, nommez-les tous, là, des monteurs de ligne qui passent dans notre école pour pouvoir justement transformer un peu le monde. Puis la troisième, ben c'est Apprentix, qu'on aime beaucoup. Apprentix, c'est une solution technologique, dont Bedos, qui a gagné d'ailleurs des prix en Floride. Fait que c'est une solution pour mesurer l'adoption de nouveaux comportements ou de nouvelles technologies. Et donc aussi, c'est un système de gestion évidemment de formation, mais où est-ce qu'on est? On est obsédé par la mesure. Donc, enfin, on est capable de mesurer pour les leaders l'impact de quand on forme nos gens. Puis évidemment, c'est des solutions technologiques digitales là, pour nous permettre de le faire le plus rapidement possible puis le plus efficacement possible. Fait que c'est ça, notre famille. Mais on est tous ensemble.
Famille.
Une grosse famille qui fait que moi, mon rôle au fil des années a évolué évidemment grandement. Puis j'ai vraiment la chance, je vais toucher du bois, mais j'ai la chance de travailler avec des gens fantastiques, smart, mais en même temps qui veulent, tu sais, qui sont des missionnaires dans l'âme, qui veulent vraiment pas juste faire du cash, mais vraiment là avoir un impact dans la société.
Il y a une mission qui est assez forte derrière tout ça. Et bon, tu as parlé au fil des années. Ouais. Le lancement d'AFI Expertise est assez intéressant. Tu as lancé ça en sortant de tes études. Tu étais super jeune. Et je pense que tu as vu une opportunité un petit peu se dessiner. Une organisation qui avait du potentiel, mais que finalement, peut-être, la santé financière était complexe. Tu as vu une opportunité, tu as saisi les actifs. Et par la suite, tu en as fait une entreprise qui a grandi assez rapidement. Peut-être que tu pourrais nous ramener au début de tout ça.
Ah oui, là, tu me ramènes il y a 24 ans. Exact. En fait, je suis comme tombée en amour avec le monde de l'éducation et le monde de la business. Moi, je savais pas du tout que j'étais une entrepreneur, là. J'ai terminé mon bac en administration des affaires, spécialisation en technologie. Puis, je roulais ma bosse. Je me disais que j'allais être l'adjointe de quelqu'un un jour. Ou en tout cas, bref, que j'allais finir avec un chien, deux enfants, avec une job à quelque part. J'ai pas de chien. J'ai eu des enfants, je suis une belle-mère. Écoute, j'ai vraiment pas fait du tout le chemin que je pensais. Puis c'est ça un peu la beauté de la chose, d'être ouverte aux opportunités. Fait que j'ai vu dans les années 2000, t'es trop jeune Antoine pour ça, là, mais dans les années 2000, il faut se rappeler que tout le monde avait peur que les systèmes arrêtent à cause du changement 2000. Puis moi, je suis rentrée dans le monde des affaires en avril 2000. Fait que les jobs étaient quand même assez rares. Mais j'ai vraiment compris rapidement que l'édition bureautique à ce moment-là, là, tu sais, donc les ou du Word, du Excel et tout ça, on faisait des migrations Lotus et tout. L'édition bureautique, l'utilisation d'un ordinateur, l'utilisation de technologies dans le cadre d'un travail quotidien, ça commençait dans le monde des affaires. Et c'est avec ce virage-là que je suis rentrée. Donc, je suis rentrée dans le virage de dire, OK, attends une minute, là. Il y a de la business là-dedans, puis il faut pas juste rentrer les gens dans un silo de dire voici ce que tu es supposé de faire avec les outils bureautiques, merci, salut. Fait que je suis vraiment rentrée dans le monde en disant moi j'ai une opportunité où est-ce que je vais entendre les gens, je vais faire contextualiser par mes profs les formations et là on va toucher beaucoup plus de monde puis on va toucher à l'organisation du travail en même temps. Fait que à ce moment-là je comprenais pas que ça s'appelait de la gestion de changement. Moi, je le faisais par les classes. Et c'est cette opportunité-là que j'ai fait et ça l'a monté super rapidement sans m'en rendre compte. J'avais une marge de crédit de 10 000 $. Mon père me coachait. À ce moment-là, il était chez CJ à Montréal. Il n'avait pratiquement pas de temps pour moi. Fait qu'il me faisait lever à 4h30 du matin pour me demander c'était quoi mes comptes à recevoir, combien j'avais vendu la veille, qu'est-ce que j'avais dépensé, c'était où que j'avais des problèmes. Puis il me poussait allègrement. Lui voyait un potentiel que moi, je voyais pas en moi. Et c'est ça, et moins de 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte que là, j'étais rendue avec une vingtaine d'employés, avec des enfants qui me faisaient confiance. Là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur parce que j'ai fait, tant que je me suis embarquée, Et là, je me suis rendu compte que j'étais responsable.
Comment était l'entreprise? Parce que de ce que tu m'as dit, tu as acheté une franchise, tu faisais partie d'une franchise que tu as fait un, ce qu'on peut appeler un petit peu en anglais, un spin-off et que tu as créé ta propre organisation. Comment tout ça s'est mis en place un peu?
Oui, en fait, j'ai acheté Multiexa, qui était une franchise sur la rive sud à Lévis, qui était le joueur numéro un au Canada, mais qui a eu des gros problèmes financiers. Donc, j'ai commencé franchisée pendant 5 mois, où est-ce qu'on me donnait les cours que je pouvais après ça finalement livrer. J'avais mes profs et tout ça. Puis, on m'a avisé que la franchise avait des problèmes de santé financière. Et c'est là où j'ai fait, ben là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas si compliqué que ça. Là. C'est des cours de Word puis d'Excel. Là. Je serais bien capable. Puis je regardais ce que la franchise me donnait comme service versus qu'est-ce que je pouvais faire moi-même puis comment ça me coûterait. J'ai été très naïve. Là. Je pensais que ça serait plus facile. Et que j'ai mangé du pain noir pendant 6 mois là, à vraiment remettre en place, dans le fond, ce que la franchise m'offrait. J'ai coupé mon contrat de franchise. Puis quelques mois après, ils ont fait faillite. Puis moi, quelques mois après, pendant ce temps-là, j'ouvrais sur la ville de Québec parce que j'étais physiquement à la franchise de Lévis et j'avais un territoire spécifique. Et là, ça m'ouvrait toutes les opportunités. Puis je savais très bien que le gouvernement du Québec, les sociétés d'assurance, tout ça était sur la rive sud, était sur la rive nord de Québec et dans la rive sud. Fait que j'ai ouvert dans sur la rue Bouvier, dans un local que j'avais négocié allègrement parce que je voyais passer les rats quand que je l'ai loué. Mais je viens d'une famille de la construction. J'étais comme, je vais nettoyer le local, je vais le repeindre. Tu sais, déjà à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup au design intérieur. Fait que j'ai fait genre, I'm gonna do this. Puis je vais commencer à annoncer que même si Multiexa est décédé ou va mourir bientôt, ben moi, je suis là pour être une bonne opportunité. Puis encore, en plus, je donne un service encore plus haut parce que je donne un service plus personnalisé. Fait que je me suis mis avec ma valise à visiter peut-être une vingtaine de clients par semaine. Fait que je faisais du cold call. Bonjour, moi c'est Marie-Pierre. Vous me donnez, tu sais, vos contrats, je vais vous prendre en charge pis tout ça. Puis à ce moment-là, il y avait un regroupement de directeurs généraux des technologies de l'information au gouvernement du Québec puis aux sociétés d'assurance. Ils se parlaient tous. Moi, je le savais pas. Ils se parlaient tous. J'allais les voir un après l'autre, qui me donnaient des contrats puis m'en donnaient. Ils se sont parlé puis ont dit à du gars, tiens, là, on va la tester. T'sais. Fait qu'ils me testaient. Ils me testaient sur plein de patentes, tu sais, spécifique, personnalisé, plein d'affaires compliquées. Je livrais. J'arrêtais pas de livrer, mais tu sais, je travaillais comme une malade. Je travaillais 7 jours sur 7. S'il fallait que je livre la nuit, je livrais la nuit. Fait que c'est là qu'après une couple d'années, ben ma patente, le bureau de Lévis roulait bien, le bureau de Québec roulait bien, puis j'étais comme, wow, OK, là, j'ai une business. Là. Puis là, je commençais à gagner des prix parce qu'on m'appelait, puis on me disait, hey, c'est cool, j'ai une chambre de commerce, t'sais, j'ai une personnalité, puis tout. Puis c'est là, non, moi, je suis pas un entrepreneur. Là. Moi, je suis juste en train d'essayer de sauver ma peau. Moi, dans ma tête, c'était ça, tu sais. D'être capable de payer les billes. Je me sentais dans un ancrage de payer des billes puis payer des salaires. Puis après ça, c'est après ça que j'ai fait le choix d'être une entrepreneur. Puis j'ai fait le choix de devenir une bonne entrepreneur puis une bonne gestionnaire.
Le déclic se fait en quelle année à peu près?
Je te dirais autour de 2017. Fait que ça a pris du temps, ça, au moins 7 ans, parce que là, j'étais rendue avec. C'était assez costu mon truc. Puis là, j'étais rendue que je faisais du service conseil, un peu de gestion de changement dans des grands projets. Dans le temps, on développait des solutions informatiques. Il y a des entreprises qui développaient des solutions informatiques. Puis il fallait former tous les ministères ou toutes les sociétés d'assurance ou toutes les entreprises privées là-dessus. Fait que, tu sais, on m'appelait pour, j'ai 1000 personnes à former. Je sais pas trop, on est en train d'implanter un truc. Comment tu vois ça, tu sais? Fait que ça m'occasionnait tout le temps d'avoir un partner à Montréal. Parce que les entreprises que je touchais, ils disaient tout le temps, ben là, je t'embauche, mais tu t'organises pour tous mes employés. Fait que tu t'organises pour Montréal aussi. Puis à chaque fois que j'essayais de trouver un partner ou un compétiteur, ben, ils me ramenaient à une solution super traditionnelle. Je suis capable de te donner ça. C'était jamais clé en main. Fait que là, en 2007, j'ai décidé d'ouvrir clé en main à Montréal. Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que là, j'avais vraiment une business parce que j'ai signé littéralement un bail de 2,3 millions. J'avais 3 mois pour rentabiliser le bureau de Montréal. Sinon, j'avais fait un all-in sur mes 2 autres bureaux. Fait que, sinon, je faisais faillite, t'sais. Fait que c'est là que je me suis rendu compte que là. Puis, tu sais, t'arrives là, j'ai mon backpack en train.
Et ça recommence.
Je connais personne à Montréal. Et ça recommence. Fait que j'avais loué une chambre au Reine-Élisabeth. Je rencontrais du staff potentiel. Je me disais, j'ai besoin d'une développeuse d'affaires. J'ai besoin d'une coordo. J'ai besoin d'un prof. Puis, je commençais avec ça. Fait que, tu sais, des fois, j'avais des problèmes genre aussi basique que d'ouvrir la porte à mon prof le matin, puisque maintenant ma coordonnatrice était malade, fait que je sautais dans un train puis j'allais ouvrir la porte. Là.
Oh, wow.
Fait que c'est ça, 2007. Fait que 21 octobre 2007, on a ouvert Montréal. Fait que ça a été un game changer parce que là, ça a fait, OK, là, il faut que je me structure parce que c'était rendu beaucoup trop gros. Puis tu sais, on faisait quand même des millions là, de chiffre d'affaires. Puis on faisait du cash. Mais là, j'utilisais ce cash-là pour augmenter ma capacité. Mais plus j'augmentais ma capacité, plus je faisais du cash. Puis plus je faisais des revenus, puis plus j'avais des clients, puis plus j'étais dans des dossiers critiques. Parce qu'on s'inscrit dans la mission même de l'organisation. Fait que ma roue était comme sans fin. Puis là, j'étais là, wow! Puis c'est là où j'ai fait, OK. Puis j'avais fini un MBA, mais là, j'étais comme, OK, what's next? T'sais? Fait que j'ai essayé d'aller me chercher des outils un peu partout. Je me suis entourée, je me suis bien entourée de monde qui me brassait beaucoup, qui avait des opinions incroyables sur comment je devais devenir et comment ma business devait devenir. Puis c'est là aussi je me suis rendu compte que en 2009 que j'essayais de rentrer dans un moule, tu sais, j'essayais d'écouter, la plupart du temps c'était tous des hommes d'affaires. J'étais comme OK, là je suis en train de perdre de tout mon bubbliness, tout mon dynamisme, je suis en train de perdre la clé du pourquoi les gens m'aiment, qui est un peu moins corporatif comme style. Mais qui était vraiment en besoin dans les organisations où est-ce que le volet humain était moins là, tu sais.
C'est tellement intéressant parce que
jusqu'en 2009. Ouais.
Jusqu'en 2009, parce qu'on sent, si on regarde d'un point de vue vraiment externe ton parcours, qu'il y a un petit peu cette croissance brute au départ. On n'a peur de rien. On prend le téléphone, on appelle les grandes entreprises, on ouvre à Montréal. Et ultimement, à travers le temps, si on regarde 2017-2018, tu as finalement créé un petit peu un parapluie autour de tes différentes organisations Agenda. Et là, on sent qu'année après année, en regardant ça, il y a eu une certaine sophistication. Je serais curieux de t'entendre un petit peu ici. Il y a toute cette étape-là de 2000 à 2009 où est-ce qu'on ouvre les portes, on va chercher les clients, on grandit, on rentre dans cette dynamique d'hypercroissance littéralement. Et quand je parle de sophistication, c'est que par la suite, 2010, 2011, 2012, jusqu'à 2017, s'enclenche un mécanisme de croissance par acquisition. Je serais curieux de t'entendre ici, de savoir comment tu as vu le marché et pourquoi tu as commencé à vouloir acheter des entreprises, te lancer également dans le conseil et pas simplement dans la formation et ultimement même dans le domaine technologique.
Harvard.
Un mot,
Harvard.
C'est vrai, tu as fait ton Harvard MBA. Business Review.
J'ai fait HBS, j'ai fait à Harvard Business School dans un programme qui s'appelle le OPM, c'est le Owner President Management Program. D'ailleurs, j'ai poussé quelques entrepreneurs au Québec à le faire aussi. Harvard est moins connu au Canada, encore moins au Québec. Et pourquoi je parle de Harvard? Parce que un dîner à un moment donné dans un des conseillers que j'avais, il y en a un qui est avec Justine, puis qui me dit, tu sais, mais c'est vraiment cher ce que tu fais, effectivement, j'étais en hypercroissance et tout ça. Mais tu sais, il voyait le manque de maturité que j'avais. Moi, je le voyais pas. Parce que quand tu es dedans, tu le vois pas, le manque de maturité. Je dirais la posture de leadership, la posture d'un leader plus senior avec une maturité d'être justement autour de la table, tu sais, je faisais des programmes de développement de compétences pour 250 000 personnes. Tu sais, fait que moi, c'était comme, j'avais pas froid aux yeux, c'était tout allait bien. Et là, je pogne mon nœud littéralement parce que ce gars-là, qui est un game changer, je lui ai toujours dit, il adore, en plus, quand j'en parle, Pierre Renaud, on va dîner ensemble. Puis là, il me dit, vraiment cher, ce que tu fais, Marie, tout ça, tu sais, dans le monde de l'entrepreneurship, c'est cool, mais là, tu t'en vas dans une game corporative, d'entreprise, tu t'en vas dans du C-level, dans du exec, où est-ce que les gens, c'est pas le fait que t'es une femme qui va négocier, c'est ta jeunesse, c'est la façon dont tu abordes les dossiers. Puis j'étais comme, amen, tu sais. Moi, je me disais dans la tête, hey, toi, tu l'as-tu rushé, là, comme je l'ai rushé, puis tu l'as-tu fait, là, la business que j'ai faite, tu sais. Ça fait comme 10 ans, là, que je roule ma bosse. Et il me dit, tu sais, il faudrait à un moment donné que tu vendes ta business, tu deviennes VP à quelque part pour pouvoir comprendre ce qui te manque ou tu vas te chercher à écrire un diplôme, un vrai diplôme. Tu sais, j'étais comme, un vrai diplôme? Hey, j'avais déjà été, tu sais, j'avais fait une partie de mon bac dans l'Ouest canadien. J'ai fait le reste de mon bac à l'Université Laval, mon MBA à l'Université Laval. Je suis comme, l'Université Laval, c'est super international. Il y a full de monde de partout puis dans le monde qui viennent. Non, il dit pas ça, je te parle culturellement. Il dit, tu sais, de te faire brasser la cage par complètement un autre univers, une autre ville, un autre pays et tout ça. Puis là, je me dis, alors mon fort intérieur, je me dis, attends une minute, peut-être que c'est ça que je sens depuis un bout, là. T'sais, puis je disais toujours, on est aussi, nos business sont aussi forts que le leader qui est à la tête de ça. Fait que bien fâché, le soir même, je suis dans mon spa, puis je commence à googler pis tout ça. Puis là, je sais, Harvard, tout le monde connaît Harvard, là, c'est numéro un au monde. Là. Fait que je commence à googler, puis je tombe sur ce programme-là, puis je fais comme, je m'inscris. Fait que je m'inscris live, je réponds à 6 questions, je donne des références de clients, puis tout ça, me disant, c'est Harvard, je vais en entendre parler dans 2 ans. 2 semaines plus tard, je reçois un appel. Hi, this is Jackie from Harvard. This morning. Puis là, full excitée. Fait que là, je suis comme, OK, elle va juste me dire, j'ai reçu ta candidature. Elle dit, écoute, elle dit, on a trippé sur tes 10 dernières années. On a appelé tes clients. Tout le monde nous a donné que des commentaires exceptionnels. You're in. On t'attend dans 2 semaines et demie. Là, j'ai fait, oh boy, j'ai raccroché. Non, je suis allée vivre à Harvard, dans des dortoirs puis tout ça. C'est 3 semaines aux 8 mois pendant 3 ans. Fait que là, j'avais pas dit ça à personne. T'sais. Fait que là, j'ai dit ça à mon conjoint le soir même. On a quand même 2 enfants t'sais, qu'on élève ensemble. Puis je suis comme, I'm going to Harvard. Il est là, pourquoi tu fais ça? Marie, ça va bien tes affaires, là. Puis il dit, tu vas partir 3 semaines, 1 mois, écoute, ça va être la catastrophe. T'sais, j'étais beaucoup une femme orchestre, c'est ça, je voyais pas. Alors, je suis allée là et ça a vraiment, vraiment changé ma perspective business. Ça a changé ma perspective de leadership. Ça m'a changé ma perspective de la planète, la grosseur de la planète. Et quand je suis revenue, ça a tellement changé mon mindset, ma façon de fonctionner.
Donne-nous des exemples.
Que mon plan de match a changé. Mais juste ma meilleure chum, elle a fait une intervention, elle était comme, on te reconnaît plus, puis elle travaillait avec moi, puis elle était là, je te reconnais plus, qu'est-ce que t'es en train de faire? J'étais en train de changer la structure. Fait que plutôt que de travailler en équipe, où est-ce que tu sais, souvent je donnais des tâches ou des responsabilités, puis je suivais tout. Mais là, l'exemple numéro 1, je suis sortie de là, puis j'ai dit, il me faut un CFO. Tu sais, j'étais CFO aussi, là. Fait qu'il me faut un solide CFO. Je veux faire de la créativité financière. Je veux commencer à faire des acquisitions. J'ai plus le temps de faire juste du organique. Je veux utiliser cash is king. Je veux utiliser l'argent des autres pour pouvoir croître. J'utilisais tout mon argent au complet. J'étais comme, non. Maintenant, j'utilise l'argent des banking. J'utilise l'argent des autres pour être capable, genre, de me scaler. Là, j'ai fait, OK, il faut avoir un module, un modèle d'actionnariat minoritaire pour attacher mes gens, mettons, spécifiques que je veux qu'ils soient là tout le temps avec moi dans les 10 prochaines années. J'ai besoin de quelqu'un de fort en HR. Fait que moi, j'ai vraiment travaillé sur le HR puis le volet finance pour les 8 prochains mois. Et je suis tombée enceinte. Parce que ça faisait comme 6 ans que j'attendais pour ma fille thaïlandaise. J'avais 5 avis de « tu seras pas capable d'avoir d'enfant, t'es ménopausée », tout ça. Moi, j'ai la maladie de Crohn, fait que j'étais très malade. Et Harvard m'a donné aussi un espèce de break dans ma tête qui a fait qu'on dirait que mon corps a comme lâché puis a comme fait « This is okay, Marie. T'sais, you're in the right place. T'as pas le syndrome d'imposteur. T'es là. Tu te confrontes au meilleur au monde puis t'as ta place autour de la table. » Fait que ça m'a donné une confiance qui a fait que je suis tombée enceinte. Fait que là, par contre, la 2e année, je suis arrivée avec une bédaine de 7 mois à Harvard. J'ai vécu quasiment 1 mois là-bas. Seule, ma grossesse avec la bédaine, tout ça, travailler 18 heures par jour. Fait que ça aussi, c'est un concept de résilience, mais ça a changé ma vie personnelle. Ça a changé aussi mon niveau de pression et de stress. J'étais capable d'en prendre 2 fois plus. Ça m'a permis de créer une structure de gouvernance chez moi, dans ma business, complètement différente. Ça m'a enlevé un peu d'émotivité de faire des move business. Ça m'a permis de faire mes premières acquisitions. Alors, j'ai doublé la business en moins de 2 ans et demi. Redoublé avec moins d'efforts, parce qu'en plus, là, j'avais un 3e babe à la maison puis tout ça. Fait que ça, Harvard a vraiment changé cette perspective-là. Puis c'est ça qui a fait que le 2010 à 2017 a déboulé incroyablement. Parce que là, j'ai comme solidifié tout. C'est comme si je me préparais à recevoir Jean Caron dans ma business. Puis c'était comme si je faisais le ménage. Puis c'était comme si j'avais comme un 7 ans où est-ce que j'ai fait genre, OK, je vais la grossir efficacement. Je vais monter des blocs. Je vais créer cet univers-là qui va être assez senior après pour pouvoir attirer un gars comme Jean Caron qui gérait quoi 5000 personnes partout dans le monde, qui travaillait pour une organisation aussi respectable que CGI, mais tu sais, dans les hautes directions. Il aurait pas pu venir en 2010. Ça aurait été comme ça, ça aurait pas marché. Ou il se serait emmerdé. Fait que ce momentum-là, maintenant, je le comprends, c'est une phase qui est importante.
Et donne-nous un petit peu les années, juste pour qu'on soit capable de bien donner du contexte à notre audience aujourd'hui. En quelle année tu vas chez Harvard? Et à partir de là, quand on a été capable de voir ta première acquisition?
Dans le fond, moi, Harvard, j'ai fait 2010 à 2012. Donc, j'avais 32 ans. 32 ans quand je suis allée à Harvard. Ce qui veut dire que c'était littéralement 10 ans plus tard que l'hypercroissance que j'avais vécue. Et ma première acquisition a été à peine un an plus tard. C'est allé vite. Ouais, 2012, 2013, ici. Donc, ici, formation. C'est une acquisition quand même qui était grosse pour moi parce que, tu sais, il fallait quand même que je trouve, overall, elle m'a coûté, tu sais, mettons, ça a été des phases, là, mais ça m'a coûté 2 millions quelques. Et donc, c'était gros dans le temps parce qu'en même temps, c'était un centre de formation qui était vu technologique, qui achetait une firme de formation qui faisait des programmes en leadership puis en capital humain. Fait qu'encore là, c'était un territoire, littéralement, là, c'était un territoire d'offre que mes clients ne me voyaient pas là. Puis c'était pas pour rien que j'ai fait ça. Fait que ça, c'est la première acquisition. Après ça, c'est déboulé des OTI, où est-ce qu'on est allé chercher justement un joueur spécialisé en outils numériques pour renforcer. Je voulais aussi cannibaliser, je voulais tester la cannibalisation d'une offre qui s'en venait plus traditionnelle chez nous, des cours de Word, puis d'Excel, d'Outlook. Puis là, j'ai amené une offre où est-ce que c'était plutôt efficacité professionnelle, comment devenir efficace avec des outils numériques. Donc là, ça l'amenait complètement à une autre dimension. Fait que l'intégration était challengeante parce qu'il y avait vraiment deux niveaux de pensée, littéralement ma business puis la business qu'on incorporait. Puis tranquillement, pas vite, on a acheté Vortex aussi en processus parce qu'en gestion de changement, on se rendait compte qu'au niveau des processus, on avait besoin de Black Belt, on avait besoin de monde qui était vraiment spécialisé là-dedans. Fait qu'au fil du temps, je suis même plus capable pour vraiment te dire toutes les acquisitions que j'ai faites. Là, j'en ai fait une couple qu'on n'intégrait pas au départ. On les laissait un peu volant autour. Puis ça a été une stratégie, là. On pourra en reparler, là. Mais ça a été une stratégie de ne pas les intégrer directement dans la business l'année 1 de l'acquisition. Puis c'était toujours mon même modèle.
Le même modèle avec des coquilles indépendantes. Et là, les années avancent, beaucoup d'acquisitions, beaucoup de croissance encore une fois. Et là, en 2017, 2018, c'est là que tu essaies peut-être de mettre un petit peu plus d'ordre dans tout ça. Également de l'ordre au niveau branding, marketing. Parle-nous un petit peu de la naissance de Agenda et la réflexion derrière tout ça.
Ouais, en fait, c'est arrivé avec 2014-2015, on a commencé à avoir des offres quand même substantiel à tout, ben, substantiel à ce moment-là, là. Moi, tu sais, une offre que 10 à 15 millions, pour une, j'avais même pas 40 ans, c'est quand même cool, là, tu sais. Puis, ben, tu sais, je le considérais jamais. Puis là, à un moment donné, j'ai dit à quelqu'un, je le considère. Puis pourquoi il y en a une que j'ai considérée, c'est que c'était le plus gros joueur, là, au Canada. Global Knowledge. Puis, pour moi, je me posais la question si c'était pas un tremplin pour où est-ce qu'on était rendu dans notre business. Fait que je me posais, c'était pas la question sur moi, mais bien sur la pérennité de tout ce beau monde-là qui travaillait, qui était rendu, on était rendu le leader dans notre domaine dans tout l'Est du Canada. Fait que c'était intelligent, Global Knowledge, de nous acheter. Puis aussi, le président de Global Knowledge Canada prenait sa retraite, donc il cherchait une relève. Fait que évidemment, moi et mes collègues devenons la relève canadienne. Puis en même temps, ben, il m'offrait un poste au board pour le volet développement des offres innovation. Il voulait qu'on amène un peu ce qu'AFI faisait, mais partout dans le monde avec Global Knowledge. Fait que je l'ai considéré, mais rapidement, je me suis rendu compte que ça allait pas du tout. C'était un boys club. Je travaillais par des VC. J'étais allée en Caroline du Nord à Raleigh, les visiter, tout ça. Puis écoute, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Puis j'étais comme, je peux pas leader une business comme ça. Puis je me suis rendu compte que il n'y avait aucune capacité de croissance organique. Il ne faisait que des petites acquisitions d'1,5 à 2 millions de revenus dans plein de petites villes partout au Canada. Puis ces petits châteaux forts-là devenaient le brand. Tandis que moi, j'étais intégrée. Là, nous, on avait une marque forte et tout. Fait que j'ai fait, OK, on a deux choix. Soit on vend, on prend tout ce cash-là puis on fait d'autres choses dans la vie. Ou on refait un autre virage. On refait une autre phase parce qu'on peut plus continuer comme où est-ce qu'on est parce que là, le modèle d'affaires, comment on fonctionnait avec le clip de satellite, c'était plus viable. Tu sais, je veux dire, on avait, à mon avis, on avait atteint une certaine maturité de croissance par rapport à ça. Puis, le client était mêlé. Là. À un moment donné, tu fais-tu affaire avec OTI, avec Vortex, tu fais-tu affaire avec ICT, avec Espon. Fait que c'est là où est-ce que j'ai appelé mon ami que je connais depuis de longue date, Jacques Caron, que j'avais connu, j'avais 19 ans. Puis c'était une connaissance, mais tu sais que je me sentais bien avec. Puis je suis allée dîner ensemble, puis j'ai comme tout déballé mon sac et expliqué, voici où est-ce que je suis rendue, voici ici, tu sais, vraiment là, terre à terre. Puis lui, il venait de perdre son père. Puis ça faisait un bon bout qu'il travaillait pour CJ. Ça faisait 18 ans. Il avait fait des choses fantastiques et tout. Lui aussi, il était rendu à un autre niveau. Avec l'autre niveau, il allait lui demander beaucoup de temps, beaucoup de santé. Puis il m'a dit, Marie, là, t'as besoin de consolider tes affaires. Puis t'aurais probablement besoin d'un directeur général. T'aurais besoin d'une direction générale pour t'aider. J'avais quelqu'un spécialisé dans les RH, j'avais quelqu'un en marketing, mais j'avais personne, j'avais pas de chef des opérations. Fait que moi, j'étais présidente directrice générale. Puis là, j'ai fait, man, c'est ce gars-là qu'il me faut, là. Mais là, tu sais, c'est genre, hey, j'aimerais ça que le premier ministre vienne travailler pour moi, là. Tu sais, je veux dire, mais tu sais, encore là, pour froid aux yeux, je me suis dit, ben, moi, je veux faire quelque chose de big, fait que j'ai besoin d'un gros canon. J'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance parce que laisser une partie de ma place, je savais que émotivement, ça allait être difficile pour moi. Puis on a commencé à parler, puis on a parlé longuement parce que lui, il voulait vraiment bien faire les choses avec CJ, il voulait être sûr, il avait 50 ans à l'époque et tout ça. Puis finalement, il a plongé dans l'aventure, mais sous réserve de dire, on refait complètement le brand, on fait un one-stop shop, on disait tout le temps, one voice, one company. Puis c'est là où est-ce qu'on a travaillé avec avec Ossette pour pouvoir remonter le brand, se poser des questions, sondages et tout. Fait qu'on a passé 6 mois. Moi, j'ai passé 6 mois à me faire tordre les boyaux par des sondages clients, le staff. Puis tout le monde disait la même chose, c'est on sait pas vraiment tout ce qu'on fait, mais on sait que c'est cool en mot à dire puis que ça a de l'impact. Fait qu'on est parti de là. Parce que nos clients aussi disaient, quand on n'est pas sûr vraiment s'ils font ça, ben on les appelle puis on leur demande parce que le terrain d'affi est grand. Là, je disais, ça va. On s'entend que c'est super, merci pour la confiance, mais fallait qu'on travaille le brand. Fait qu'on a sorti le 9 mai 2018, on a sorti Agenda pour donner de la puissance au service conseil puis garder toute la puissance d'AFI dans le monde de l'éducation, de la monde de la formation en entreprise. Puis là, ben c'est allé en plus là une run incroyable, un changement, c'est allé un changement de culture. L'avenue de grands seniors. Là, tout le monde s'est mis à mettre une couleur différente à la business. Puis là, ben, on est rendu là.
Puis dis-moi, parce que là, il y a beaucoup de choses à décortiquer ensemble ici. Puis je pense que ça va être excessivement intéressant. Ça l'est déjà. Jacques, quand tu as dîné avec lui, est-ce que tu lui as fait l'offre sur le champ? On va dire une offre informelle, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as ouvert les discussions sur le champ ou c'est par la suite que tu t'es dit, hein, pourquoi pas lui?
C'est une bonne question, Antoine. Il n'y a jamais personne qui m'a posé cette question-là avant. Sur le champ, en fait. Parce que, wow. Ouais, parce que je suis, moi, je pars du cœur. Puis après ça, je relativise. Je pense qu'on peut le voir. Je pars du cœur. Je suis connectée à toi. Je sens quelque chose. Après ça, c'est plutôt là, comment qu'on va y arriver? T'sais. Fait que mes plus grandes embauches ont été toujours un peu sur la gueule, sur le coin d'un apron, là, que j'appelle. T'sais, où est-ce qu'on dessine quelque chose sur un, fait que moi, je viens toujours de façon candide parler avec des gens. Je vais dîner, quoi. Puis c'est beaucoup comment je me sens. Puis après ça, je le rationalise. Fait que c'est sûr que quand on a parlé de ça, puis il m'a dit, hey, t'es rendu à direction générale, t'es rendu à ça. Puis il me parlait, puis live, j'ai dit, tu parles de toi, Jacques. Puis là, il a reculé. Parce que j'ai dit, je te sens. Ça a été ma réponse, je te sens. Puis là, il a dit, attends, il dit, OK. Fait que lui, beaucoup plus rationnel, il part toujours de la tête. Mais après ça, il va au cœur direct. Il m'a dit, écoute, moi, je suis prête à regarder des trucs. Tu perdras rien parce que, dans le fond, je vais te conseiller. Puis en même temps, on va pouvoir avancer tranquillement, pas vite, voir ensemble, tu sais, s'il y a des choses. Si je suis pas capable de dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait intéressant pour moi ou même si je pourrais contribuer. Mais une chose est sûre, c'est que je peux t'aider, structurer ta shop pour pouvoir accueillir quelqu'un qui va venir te donner un coup de main parce que, t'es seul. Fait qu'on est rentré dans une discussion puis un 6 mois où est-ce que tu me demandais tout. Les revenus facturés, mes clients. Fait que je me suis mis à nu. Je me suis mise à nu avec cet homme-là. Je lui ai tout donné, tout ce qu'il avait besoin de savoir. Je l'ai invité dans mon comité de direction avec mes gens, expliquant que c'était mon coach pour qu'il voit les gens, qu'il voit le niveau des gens, qu'il voit le travail qu'il avait à faire. on a créé une stratégie du futur des 5 prochaines années. Et là, il m'a dit, ben moi, je veux tout renaître et que plus personne relève de toi. C'est ma première prérogative pour continuer à discuter. Et là, j'ai fait la même affaire. Puis j'ai dit, OK. Il a dit, c'est tout, tu sais.
C'est un peu le rêve de tout entrepreneur, hein, de se faire dire ça d'une personne qu'on respecte.
D'une personne qu'on respecte, c'est le rêve. Et 90% du temps, ça ne fonctionne pas.
Effectivement.
Je suis dans un groupe qui s'appelle les YPO, puis eux, ils m'ont dit, t'es malade. Si tu vas y donner tout, puis c'est complètement c'est différent. Il faut comprendre, moi, c'est un podcast, on me voit pas, mais moi, je suis blonde, les yeux bleus. J'avais l'air d'une Barbie. Je vais bien en rose, je suis rose pétant tout le temps. Et lui, il mesure 6 pieds 4, 6 pieds 5. Il doit peser 350 livres. C'est un ancien joueur d'hockey professionnel. Il fait juste rentrer dans une pièce, les gens ont peur. Tandis que moi, je rentre dans une pièce, les gens sont comme, ah, elle a l'air sympathique. Mais dans la vraie vie, si tu regardes la façon dont on négocie les deux, je suis beaucoup plus difficile à négocier que lui. Mais le physique fait un autre truc. Toutes mes YPO me disaient, fais attention. Et ça a été essayé souvent. T'sais, puis un hire gun, quelqu'un du volet entreprise qui rentre dans l'entrepreneurship, il sera pas capable. Il est habitué à 4 adjoints. Il est habitué avec des private flights, tout ça. Puis là, toi, il vient, puis toi, tu ramasses encore. Moi, je ramassais le balai. Là. Je faisais des fois le café pour les clients, puis tout. Mais t'as raison. Pourquoi ça a fonctionné, c'est qu'on a fait un exercice de valeur incroyable. On s'est regardé dans le blanc des yeux. On s'est dit la vraie shit. On s'est vraiment, vraiment alignés ensemble. Puis à chaque fois, il me disait, es-tu confortable, Marie? T'es-tu correct? Parce que c'est lui qui rentrait, c'est dans mes affaires. Es-tu confortable, Marie? Puis à un moment donné, j'ai dit, je suis pas confortable. T'sais, il était rentré, puis là, j'ai dit, genre que je suis pas confortable. Là, c'est le monde pleurait. Puis il m'a dit, il faut continuer, Marie, là. Il faut que tu trouves ton confort, là. Comment je peux t'aider pour trouver ton confort? J'en suis tombée malade. Ça a pris 6 mois. Mon médecin m'a annoncé qu'il voulait m'enlever le gros intestin. J'étais émotivement pas capable de lâcher prise. Et puis, c'est peut-être pas de la faute à Jacques.
Est-ce que des fois, tu as pensé reprendre la présidence puis de tout changer? Jamais. Tu avais confiance?
Jamais. En fait, je me disais, c'est soit ça ou soit je vends. Puis, je fais autre chose. Parce que moi, j'étais tannée de ramasser la direction générale. Puis, je voyais tout à cause d'Harvard, à cause des styles de mandat qu'on avait très seniors. Je le voyais, ma limitation de mon business model. Je voyais qu'il y avait trop d'émotions dans le business. Je voyais que c'était trop matriarcal. Je voyais que les responsabilités des gens ne les prenaient pas tous. Et que j'avais besoin d'un gars comme lui pour positionner tout ça, puis la business à un niveau, la gouvernance à un autre niveau. Fait que je me suis retirée. Je l'ai appelé, je dis, mon médecin me donne 4 mois d'arrêt de travail. Marie, prends-les, puis à toutes les semaines, je vais être chez toi. Puis je vais te dire ce qui se passe en business. Mais il a dit, mais là, je vais aviser tout le monde qu'il n'y a plus personne qui te contacte. Il faut que tu te reposes. J'ai pris 6 semaines, j'ai pas pris 4 mois parce qu'il y avait des dossiers et tout ça, je vais revenir tranquillement pas vite et tout. Mais ça a marché, Antoine, parce que lui laisser l'espace comme ça, quand je suis revenue 6 semaines plus tard, les comportements avaient changé. La maturité s'installait dans la business. Et là, la vraie game du next step est arrivée.
Donc, au final, ton arrêt de travail, c'est, si on reprend un peu une expression d'anglais, a bless and a curse. Donc, c'était dommage à cause de ce qui se déroulait au niveau de ta santé, mais pour ton entreprise, on dirait que c'est elle qui a été capable d'en bénéficier. Puis bon, situons un peu les gens qui nous écoutent. On enregistre le podcast 30 janvier 2024. Ton groupe aujourd'hui, c'est 260 employés, plusieurs lignes de service. Au moment du rebranding en 2017, peux-tu nous donner des chiffres, nous dire à peu près où est-ce que vous étiez au moment où est-ce que Jacques arrive dans l'entreprise?
On était autour de comme 13-14 millions. Hein? Puis là, on va reacher cette année 44-45.
Oh wow, OK. Donc, une grosse évolution. Là. On a quasiment triplé, on a littéralement triplé la business en 6 ans. Là.
On a triplé la business et c'était ça notre plan. C'est pour ça que Jacques s'en venait. Nous, on faisait un plan ensemble où est-ce qu'on se disait, tu sais, on reach cette business à 50 millions facile. Là. On était persuadés qu'on avait ce qu'il fallait pour le faire. Puis on était persuadés qu'ensemble, on était capable d'atteindre. Tu sais, lui, il arrivait avec toutes ses connaissances d'architecture d'affaires, puis ses techno, mais il arrivait aussi avec toute sa connaissance de service conseil. Moi, j'étais madame formation, éducation et tout ça. Puis j'avais fait du service conseil. puis on était, tu sais, t'as le cœur, la tête ensemble, mais tu sais, t'as le cœur qui se transforme en tête, t'as la tête qui se transforme en cœur. On est un duo. Les gens nous voient comme un duo, tu sais, littéralement, là, je veux dire. Puis maintenant, jamais je vais me poser la question. Si genre qui est dans un dossier, je me pose pas la question. Hey, c'est-tu un dossier qui devrait être fait par la présidente? Hey, you know what? C'est be my blessed, be my guest. Genre, tu veux t'en occuper, tu t'en occupes. Puis des fois, moi, je m'occupe de trucs qui est plus enligné sur le chef des opérations par rapport, mettons, exemple à la formation. On est dans la tête l'un de l'autre. Et c'est ça qui a fait. Moi, je pense pas que j'aurais des résultats aussi phénoménaux sans lui. Et lui n'aurait pas eu des résultats phénoménaux sans moi. Et on a amené aussi des gens du marché qui nous faisaient confiance des deux bords. Fait que lui, il a amené du monde avec qui il a déjà travaillé ou en tout cas, il a déjà été fournisseur, client ou quoi que ce soit. Puis moi aussi, fait que tu te mixes là est juste incroyable. Et c'est pas copiable, en fait.
Non, effectivement. Je pense que clairement, vous avez une ADN qui est assez forte. Et bon, là, c'est la question qu'à mon avis, tous les gens qui nous écoutent vont se poser. Comment qu'on passe de 13 à 40 quelques millions, triple une entreprise, c'est bien de mettre un chef des opérations, de meilleure structure en place. Certes, je l'entends, mais par la suite, il y a des actions qui doivent être mises en place. Il y a des acquisitions qui ont été faites une grande l'année dernière, ou plutôt il y a quasiment un an et demi maintenant avec l'acquisition de Laurent. Parle-nous un petit peu du processus qui s'est déroulé entre 2018 et maintenant, entre Apprentix, Laurent et tout ce que vous avez fait.
En fait, nous, là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne courrait pas après les clients en premier. Donc, on mettrait pas une culture de vente en place en premier. On démontrerait nos notes de noblesse, livrant de façon agressive une qualité exceptionnelle, pas plus chère que les autres. Fait que c'est ce qu'on a fait. Fait qu'on a été chercher des masters, des super dans leur domaine. On a tranquillement pas vite évolué pour prendre des contrats de 75 000, maintenant des millions. Puis on s'est positionné dans des éléments super stratégiques, mais aussi dans l'exécution de ces mandats-là. Donc, on fait pas juste les stratégies. Nous, on est là avec les clients, les deux mains dedans, à faire les implantations, à transformer, à migrer, à faire adopter le changement. Tout ça. Puis on a un gros, gros souci technologique, mais on a un gros, gros souci humain. Fait que ça a été notre leitmotiv. On disait tout le temps, l'humain et la tech est plus fort que l'humain ou la tech. Ça, c'était comme tout le temps. Fait qu'on s'est mis à déployer dans le marché une nouvelle approche, littéralement, une nouvelle offre de service vraiment complète qui faisait qu'on prenait en charge. Fait que si, mettons, on rentrait par n'importe quoi, une migration cloud, bien, on avait nos gens qui étaient spécialisés en adoption, qui étaient là aussi pour pouvoir s'assurer de gérer l'humain. Puis quand on était en adoption, bien, on avait un souci aussi d'utiliser les technologies puis le digital pour pouvoir être capable de former puis de pas perdre notre temps d'aller plus efficacement. Fait qu'on a développé des accélérateurs incroyables, on a développé des contenus, on a développé des approches, des méthodes, faisant en sorte qu'après ça, on devenait imbattable sur la livraison, puis notre qualité était impeccable. Fait qu'on est devenu obsédé par la qualité, on est devenu obsédé par mettre le client au cœur de tout ce qu'on faisait. Puis tout, ça inclut nos locaux, nos espaces de vie, puis nos espaces de classe qui sont fous, là. On est rendu avec des serres d'apprentissage où est-ce que tu as, par exemple, une classe de 450 plantes différentes pour être capable de travailler l'oxygène. On a transformé littéralement tout ce qui pouvait être techno, physique, humain dans l'approche. On s'est dit, on va démontrer au marché que tu peux être une lifestyle company, mais être dans l'excellence. Ça veut dire, on te demandera pas de faire 60 heures semaine, mais on va toujours viser l'excellence. L'excellence opérationnelle, l'excellence organisationnelle, l'excellence en leadership et tout ça. Fait que cette ligne-là nous a pris quand même des années pour être sûr, tu sais, de vraiment, là, tout le temps être là. Et à ce moment-là, c'est là qu'on a vu nos trous dans l'organisation où est-ce qu'on se disait, ah, ben, il y a un bout de stuff-là. Processus, il faut aller chercher. On va aller chercher Vortex. On va aller acheter Vortex, que ça fait 30 ans qu'ils font. Fait qu'eux, il y avait déjà leur méthode, il y avait déjà leur accélérant, il y avait déjà tout ça. Mais il n'y avait pas l'humain, il n'y avait pas la tech autour. Fait qu'eux, ils rentraient dans la famille. Puis, c'était un accélérant pour eux. Puis, en même temps, nous, rapidement, déjà, les clients les adoptaient. Fait qu'on n'a pas développé une culture de vente. On a développé une culture où est-ce que le client est au centre de tout ce qu'on fait, que la livraison est impeccable. Puis là, rendu au nombre d'acquisitions, puis là, la dernière, c'est la plus grosse, effectivement, Laurent, c'est quand même une acquisition de 10 millions. Mais là, on est allé structurer puis renforcer notre positionnement au gouvernement du Québec, notre positionnement au niveau des architectes d'affaires. Puis on est venu renforcer aussi Montréal en même temps avec ça, parce que des architectes d'affaires de ce niveau-là, de ce calibre-là, c'est difficile à trouver. Et avec les accélérants, les méthodes, 20 ans, eux, ça faisait 20 ans qu'ils étaient spécialisés là-dedans, d'aller chercher le 20 ans d'expérience, les scratchs dans le dos pour être capable de là. Là où est-ce qu'on est rendu, c'est là notre culture de vente. Parce que là, à 44, 45 millions, 260 employés, plus des travailleurs autonomes, quelques travailleurs autonomes, nous, on n'est pas très friands des travailleurs autonomes. On aime beaucoup, beaucoup, beaucoup développer nos humains. T'sais, on développe allègrement, on pousse beaucoup pour développer puis offrir beaucoup de développement de compétences. Fait qu'on aime mieux fonder la famille puis pousser. Mais rendu là, on a un secret bien gardé. Là, on est là, OK, là, il faut arrêter d'être un secret bien gardé. Puis là, il faut sortir. On n'est pas un secret bien gardé dans les grandes entreprises. On est un secret bien gardé dans la PME au Québec. La PME au Québec nous connaît par les formations, nous connaît par un mandat en processus, en ISO ou quoi que ce soit, en homologation. Mais il ne nous connaît pas sur la famille agenda au grand complet. Ça, c'est mon takeaway du COVID. Quand en COVID, tout le monde cherchait de la formation, tout le monde était là. Puis il y a plein de PME qui me disaient, ah, mais je ne vous connaissais pas, capoté. Hey, puis là, on a commencé à travailler avec eux. Fait que là, notre rôle, c'est d'être un peu plus out there. Là, tu vas dire, ouais, mais il me semble qu'on te voit, toi, Marie-Pierre. Non, je parle pas d'être out there, moi. Je parle que ma famille, que mes gens soient out there, puis qu'ils soient moins dans leurs affaires.
Les deux vont pas ensemble?
Les voir. Les deux vont ensemble, mais tu sais, quand on parle de branding, c'est sûr que je pense que mon histoire est belle et inspirante pour beaucoup de gens qui aiment l'entrepreneurship, ou de gens qui aiment des gestionnaires qui ont évolué de façon très moderne. Donc, je pense que je suis un signe ou un exemple de modernisme dans le leadership, dans la gestion, dans l'entrepreneurship. En tout cas, du moins, j'espère. C'est là-dessus que je fais. Mais mon souhait est toujours que mes business aient un rayonnement plus grand que moi. Ça, c'est mon rôle à moi. Mais tu vas me dire, ouais, mais tu sais, peut-être que you fail un peu parce que tu sais, on te voit partout à certains égards. Oui, mais j'essaie de vraiment faire attention. Mes sorties sont vraiment collectives. Moi, je bâtis pas quelque chose où est-ce que je suis dans mon jeu. Ça, c'est clair pour moi. Je bâtis quelque chose avec le nous. Je suis une fille d'équipe et j'ai très bien compris que pour avoir l'impact que je veux, j'ai besoin de 260 voix qui sont avec moi pour pouvoir transformer le monde. Je peux pas le faire seule. Mais j'ai pas assez de temps. J'ai 46 ans. Il me reste pas assez de temps pour être capable d'avoir l'impact reconnu pour ça. De là aussi, numérique au féminin, tu sais, on n'en a pas parlé encore, mais l'OBNL numérique au féminin, c'est mon premier OBNL. Pourquoi? C'est la diversité, l'inclusion dans les business, le nombre de femmes dans le numérique qui n'a pas de bon sens. Le leadership aussi n'a pas de bon sens. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que la pépinière, ça sèche. Dans les prochaines années, on va être pire. On peut pas. Fait que c'est un combat que j'ai décidé de prendre. Pourquoi? Parce que je crois que ça amène une culture d'innovation dans les organisations. Je crois que le landscape du milieu du travail va changer par des exemples comme ça, plus de femmes. Fait que c'est littéralement des combats, littéralement des combats. Des fois, je me sens, mon mari me dit toujours ça, « Marie, combien de combats es-tu prête à prendre cette année? » En voulant dire « relax ». Mais je me dis, j'ai la chance d'avoir une voix qui est entendue. Il faut qu'on l'utilise au bon escient. Il faut qu'on l'utilise pour le collectif, pas pour me faire connaître moi.
C'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend dans les 12-24 prochains mois avec Agenda?
La suite de la famille Agenda est simple. On veut là, justement, se faire mieux connaître, évoluer. On veut que AFIU, comme notre école, aussi amène des niveaux maintenant complètement différents aussi. Donc, on continue avec nos 500 types de cours différents à répondre aux besoins du Canada. Mais on veut aussi... On a commencé là amener des écoles internationales mais disponibles au Canada. Donc exemple, Niro Savanata vient en négociation, vient à Montréal, la London Business School transmettre toutes ses connaissances au marché. C'est le genre de truc qu'on veut avoir, fait qu'on va avoir beaucoup d'impact. Nous, ça se traduit pas en chiffre d'affaires ou en EBITDA ou en profitabilité. Ça se situe dans les mandats qu'on touche, t'sais, la transformation du monde de la santé. Qui en ce moment, on l'entend, là, qui est un gros souci. On est derrière bien des chantiers. Fait que ça, c'est clair. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? C'est renforcer encore plus aussi la famille. pour que on puisse voir que les gens, que le monde entier, mon monde à moi, en tout cas, la société sur laquelle on travaille, voit la profondeur, la famille agenda, pour nous permettre que plus on a des clients qui sont ouverts à changer, puis à évoluer, puis à faire des projets, bien, plus on va avancer, puis plus justement le milieu du travail va devenir un milieu de plus en plus sain. Fait que moi, je peux pas travailler avec des clients qui veulent avancer à pas de tortue. Donc, ce qui s'en vient, c'est une accélération, je pense, de tout ça, parce que on s'entend, le marché, l'écart des riches et des pauvres s'accélère, le taux d'inflation, beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats à faire pour les prochaines années, puis on a beaucoup d'énergie pour y arriver. Fait que c'est pas, on veut pas être 400 personnes, c'est pas ça, c'est pas un but, le KPI, l'indicateur de performance, c'est pas le nombre de personnes qui chiffre d'affaires, c'est d'être un first world class de gestion chez nous pour donner l'exemple puis aider le plus possible, le plus de monde possible.
Mmh. L'excellence opérationnelle, ça se ressent dans ce que tu dis aujourd'hui. C'est assez intéressant.
Partout.
J'aimerais terminer sur des questions peut-être plus personnelles. Marie-Pierre, j'aime toujours poser ces questions-là à mes invités. Lecture. Est-ce qu'il y a certains livres qui ont marqué ton esprit? Tu nous as parlé que tu t'éduques avec Harvard. L'éducation également et la formation, je pense que les gens vont comprendre que ça te connaît. Comment au final, toi, peut-être, tu t'éduques au quotidien dans des lectures? Est-ce qu'il y en a certaines même qui ont marqué ton imaginaire?
Oui, beaucoup de choses m'ont marqué mon imaginaire. Effectivement, j'ai fait Harvard. Là, j'étais en train de finir la London Business School. À l'automne, je suis allée au IMD, qui est l'Institut de Management, mais à Lausanne, à Genève. Fait que j'ai la chance de me faire challenger littéralement sur des lectures. Fait que moi, j'ai des piles et des piles. Mais j'attirais votre attention sur Arthur Brooks, que j'aime beaucoup ces temps-ci, Strength to Strength, où en fait, il a fait un livre aussi avec Oprah. C'est de la lecture facile à faire parce qu'il est capable de vraiment mâcher, je pense, la vie de leader. Puis qu'est-ce qui nous attend? Et c'est Monsieur Bonheur à Harvard. C'est un prof qui a étudié le bonheur, le niveau de bonheur. Puis pourquoi Strength to Strength, je commencerai par cette lecture-là, c'est que il explique à quel point plus tu fais des grandes choses dans la vie et plus tu as de chances d'être malheureux plus tu vieillis. Parce que tu n'as pas la capacité de perdre du terrain. Et comment tu es capable de faire un switch autour de 50 ans où est-ce que ton cerveau, est-ce que tes capacités ont diminué de 30-35%? Toi, tu penses que tu es encore out there, mais tu as perdu beaucoup de puissance dans ta créativité, dans justement ton bagou, là, tu sais, de prendre des risques et tout ça. Donc, comment tu es capable de pas commencer à être malheureux, de contribuer autrement? Et là, il donne la recette dans son livre. C'est nice, là. C'est sharp.
Podcast, est-ce que tu en écoutes?
En ce moment aussi, là, pour les femmes en soi, puis les hommes aussi, parce que on doit gérer ça. Ces temps-ci, je suis beaucoup avec Mandy Pelaez, qui est une docteure qui est spécialisée dans les hormones. Pourquoi j'en parle? C'est qu'on a découvert, évidemment, puis là, on le voit, là, c'est un frein dans nos organisations. Les femmes ont trois hormones, l'estrogène, la progestérone puis la testostérone. Les hommes en ont un. Une hormone qui est la testostérone, qui, by the way, diminue quand même à partir de 50 ans, puis ça a un impact sur leur carrière. Et ce qu'elle est en train de montrer, c'est tout l'impact dans le milieu du travail, puis l'impact des femmes sur leur vie quotidienne avec les fluctuations de ces hormones-là, et donc dans la créativité, dans l'intuition, dans l'énergie, etc. Et comme on a plus de femmes, pas une seule tête de nos entreprises, mais on a plus de femmes comme professionnelles et compagnie, donc un gestionnaire homme qui gère des femmes, il comprend pas ce qui se passe. Ben, il y a toute l'explication scientifique de ce qui se passe, puis comment être capable de pouvoir contourner ça, puis donner un coup de main à ces femmes-là qui sont dans le milieu du travail, qui eux-mêmes sont en train de vivre une transformation physique et mentale, mais qui a directement un impact sur la business. Moi, je peux en parler. J'ai beaucoup de femmes entre 45 et 55 ans dans ma business, et on est en train d'ajuster nos niveaux de gestion. Puis il y a des semaines où est-ce que les femmes, quand ils sont en fluctuation, ils peuvent abattre du boulot, ça n'a aucun sens, ils sont vraiment dans leur zone de créativité. Puis il y a d'autres semaines où est-ce qu'ils sont un peu plus dans l'introspection. Puis tout ça, fait que bref, je suis beaucoup dans des podcasts de docteurs, moi, parce que j'aime beaucoup ça, ramener ça dans mon niveau de gestion.
Ouais. Routine, à quoi ressemble ta routine avant, pendant et après le travail, si bien entendu tu as une routine?
C'est une bonne question. Oui, j'ai une routine. J'ai manqué de routine pendant la COVID. Et mon corps m'a parlé tout de suite. Donc, ma routine, le matin, moi, il me reste un enfant à la maison. Il s'appelle Mathis, il a 12 ans. Fait que notre routine est toujours la même. 7h-10, ça sonne. Je prends ma douche, je prends sa douche, on déjeune ensemble. Puis c'est comme ça qu'on se part notre journée. J'adore passer un 15 minutes, une demi-heure avec lui, qu'on prépare notre journée. Après ça, c'est un chaos, ma journée. Fait que c'est vraiment littéralement, tu sais, je veux dire, là, il y a un 10 heures, 12 heures qui est comme complètement différent tout le temps. J'essaye deux fois semaine d'être avec un private trainer, mettons un mardi midi, vendredi midi. J'essaye de maintenir, puis mon adjointe et moi, on essaye de ne pas bouger ça. Même si 30% de mon horaire change tout le temps. La semaine d'avant, c'est toujours ça. Puis c'est pas juste moi, hein. C'est comme dans des niveaux execs, on bouge notre horaire selon nos priorités, fait que ça rock. Puis le soir, j'essaie toujours 3-4 fois semaine de faire un sauna infrarouge chez moi pour diminuer l'inflammation. J'essaie toujours entre 5h30 et 7h30 d'être là pour mon fils. Donc, t'es souper avec lui. Puis si je suis à Montréal, par contre, là, le soir est aussi des soupers d'affaires et compagnie. Mais les fins de semaine, maintenant, après 24 ans, à part 2-3 heures de travail le dimanche pour préparer ma semaine, la fin de semaine est pour moi. Fait que ces routines là, je suis le feu. Donc je m'inflamme, j'ai beaucoup d'énergie tout ça, mais j'ai besoin d'être vraiment calme puis de me regrander puis de me restructurer. Je suis une introvertie sociale, je suis pas une extravertie. C'est ce que je suis en train de découvrir, ce que tout le monde va dire, ben non, elle est malade, elle est extravertie. Je ne me ressource pas d'être avec des gens. Donc maintenant mes rituels doivent inclure des moments où est-ce que je suis seule. Mon petit dernier est pareil que moi. Donc, on s'entend là-dessus. Des fois, on disparaît une demi-heure, 45 minutes. Et on appelle ça notre relax. Fait que c'est ça mes routines, mais bien manger, là.
C'est sûr. C'est important, c'est primordial. Bien manger,
on a pas le choix.
Bien dormir et un maximum de sport pour se garder en santé, c'est des indispensables. Marie-Pierre, merci profondément d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. C'est totalement fascinant, ton histoire, celle de Afi, Agenda et de toutes vos différentes lignes d'affaires dans l'entreprise. Si on veut en savoir plus sur vos services, il y a plein de gens d'affaires qui nous écoutent aujourd'hui, ou peut-être même si on veut travailler pour vous, meilleur endroit pour vous rejoindre.
Sur LinkedIn, Facebook, Instagram, il n'y a aucun problème. Je suis là, Marie-Pierre Saint-Hilaire, c'est assez facile à trouver. Puis je réponds très, très rapidement. Donc vraiment, ben, LinkedIn, souvent, c'est la meilleure place. Puis je vais m'assurer qu'on vous réponde. Étant donné qu'on est tellement centré sur le client et nos gens, la réponse va être rapide.
On mettra des liens dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent vous contacter. Marie-Pierre, merci énormément d'avoir pris du temps aujourd'hui avec nous. C'était, je le répète, totalement fascinant. J'espère que l'histoire de Agenda sera davantage connue après ce podcast. Donc, je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.